La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez.
Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.
Dimanche 3 décembre 2023, c'est le premier dimanche du dernier mois de l'année 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Et c'est l'heure de faire le rappel des principales informations diffusées dans les différentes éditions du journal sur Radio Afrique Santé. Santé, enceinte de la semaine de ce lundi 27 novembre à ce dimanche 3 décembre 2023, c'est parti pour le condensé. Et on débute par cette info Bénin, le samedi 25 novembre 2023, l'organisation non gouvernementale Bive Bust, en collaboration avec la mairie d'Abomey-Calavi, a organisé la première édition de la campagne Tout Abomey-Calavi Marche. Cette marche a pour objectif d'inciter toute la population béninoise à faire au moins 30 minutes de marche par jour, comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les participants à cette activité sportive ont parcouru environ 6 km dans une ambiance festive. Ninon Aoudino, président de l'organisation Bive Bust.
Nous organisons chaque fois de façon périodique à chaque grande ville du Bénin cette activité pour inciter tout le monde à être en bonne santé. Parce que si nous ne sommes pas en bonne santé, ce n'est pas bien pour nos familles, pour nous-mêmes. Nous ne pouvons même pas travailler pour gagner l'argent qu'il nous faut pour continuer à vivre et à survivre.
Le représentant du directeur départemental de la santé zone Atlantique a aussi insisté sur l'importance de marcher au moins 30 minutes par jour. Docteur Nelson Arisso.
Le sport est libérateur. Le sport fait du bien pour la santé. Après la marche d'ici, fait la marche tous les jours. Au moins 30 minutes de marche par jour, ça fait du bien à tout l'organisme, au système cardiovasculaire. Ça permet d'éviter beaucoup de maladies comme l'hypertension artérielle ainsi que le diabète.
Quelques participants n'ont pas hésité à donner leurs impressions sur l'événement.
Non, les impressions sont bonnes parce que le plus important c'est quand même la cohésion qu'on a retrouvée dans le groupe, l'ambiance de retrouver des gens qu'on ne connaît pas. Et je pense quand même que si c'est à refaire, moi je vais toujours le refaire.
Beaucoup de personnes ne marchent pas. Qu'est-ce que je vais juste leur dire? C'est de les motiver et comme je le disais à quelqu'un tout à l'heure, il faut forcément que cela devienne une éducation familiale. Il faut déjà qu'au sein de nos familles, vous hommes qui avez l'habitude de marcher tous les samedis, que vous puissiez déjà motiver vos enfants, vos femmes à le faire. Et je pense que quand elles vont commencer par le faire déjà, les femmes et également les enfants, je pense que ça va donner le pli et pour les prochaines éditions, ce sera juste du waouh.
Par rapport à la marche, c'est vrai que je n'ai pas participé. Je n'ai pas eu la chance de participer à la marche, je viens d'arriver. Mais j'ai eu la chance d'organiser à Parakou, ou Parakou Marche.
Rappelons qu'une séance de dépistage du diabète, un moment de relaxation, une séance de fitness étaient entre autres les activités qui ont également meublé cette première édition de Tout Abomey-Calavi Marche. Restons toujours bénis, parlons égalité des sexes dans le domaine de la santé. L'ONG Women in Global Health a lancé officiellement ses activités au Bénin. C'était le samedi 25 novembre 2023 au champ de foi de Cotonou. Un jeu de leadership féminin dans le domaine de la santé, c'est le thème autour duquel s'est articulée la cérémonie, a été rehaussée par la présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toifori. Elle souligne ici la portée des enjeux de leadership féminin dans le domaine de la santé.
La création de l'antenne béninoise de WGH traduit avant tout, à mon sens, votre engagement pour l'amélioration de la santé des populations béninoises, car c'est cela le but. Vous avez pour ambition de parvenir à l'atteinte de ce but à travers l'implication des femmes leaders en santé, que sont majoritairement les femmes professionnelles de santé, mais également à travers l'implication des femmes à d'autres corps de métier.
Men in Global Khelif est un mouvement reposant sur le plus grand réseau de femmes et de partenaires au monde, œuvrant à la remise en cause des pouvoirs et privilèges au profit de l'égalité des sexes dans le domaine de la santé. Mardi 28 novembre dernier, le ministre de la Santé a présenté le budget 2024 de son département devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Son portefeuille passe à 136 286 millions de francs CFA, une augmentation de 8,35% comparé aux 125 786 millions de l'année dernière. Professeur Benjamin Rompatin, ministre de la Santé.
Nous allons avoir en 2024 l'approfondissement de certains programmes qui ont déjà commencé en 2023. Il s'agit en l'occurrence de la formation de médecins spécialistes dans différents domaines, qui près plus de 100 médecins spécialistes qui sont formés dans différents domaines. Ensuite, nous avons la poursuite du programme de préinsertion des jeunes diplômés, notamment les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, qui va se poursuivre également en 2024. Nous allons avoir la poursuite et la mise à échelle de la politique de santé communautaire avec le recrutement de plus de 10 000 relais communautaires et agents de santé communautaire qualifiés. Et pour ce qui concerne la qualité de l'offre des services de santé, nous allons continuer le développement des pôles d'excellence. Nous avons commencé déjà depuis près de 2 ans à développer des pôles d'excellence au niveau de l'ORL, de l'ophtalmologie, de la chirurgie cardiaque, de la cardiologie interventionnelle et de la réadaptation cardiaque, mais également au niveau de la radiologie. En dehors de ça, nous allons continuer la poursuite de la mise aux normes de nos infrastructures sanitaires. Nous avons commencé donc à procéder aux études nécessaires pour la réhabilitation et la reconstruction des hôpitaux, notamment 5 centres hospitaliers universitaires, 4 centres hospitaliers départementaux et 15 hôpitaux de zone. Nous allons également faire en sorte que près de 688 centres de santé puissent bénéficier également d'un programme de réhabilitation et de reconstruction.
Au titre de la nouvelle année, la population va bénéficier de la généralisation de la politique nationale de santé communautaire dans les 77 communes, sans oublier l'arrivée des 180 ambulances annoncées depuis plusieurs mois. Alassane Seibou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.
En matière de sauvetage, ce qui compte, c'est le délai d'intervention. Et pour intervenir le plus rapidement possible, il faut être proche du lieu du sinistre. C'est pour cela que nous mettons un accent sur la multiplication des centres de secours. Il y a aussi l'acquisition des camions d'incendie, des ambulances. Vous savez que les sapeurs-pompiers interviennent beaucoup en ce qui concerne l'évacuation des malades, les accidentés de la voie publique et autres. Il y a des ambulances, il y aura aussi beaucoup de pick-up qui seront achetés pour permettre une grande mobilité de ces agents.
En dehors du champ des pompiers, il est prévu le recrutement des agents de police et les formations et la construction des commissariats. Réunis en conseil des ministres ce mercredi 29 novembre 2023, le gouvernement béninois a donné son accord pour la mise en stage pratique de 30 médecins et paramédicaux en chirurgie cardiaque. Ces pédiatres de la chirurgie cardiaque vont faire une immersion professionnelle dans les hôpitaux étrangers, recevant un flux important de patients à opérer en chirurgie cardiaque. L'objectif de ce stage est de permettre aux 30 professionnels de santé concernés de gagner en expérience. Il vise aussi et surtout à mettre des ressources humaines qualifiées à la disposition du pôle de chirurgie cardiovasculaire thoracique du centre hospitalier international de Calavi en construction. Wilfried Leandro Mbedi, porte-parole du gouvernement du Bénin, au micro de Ewan Oliri.
Dans la perspective de la réduction des évacuations sanitaires de patients de notre pays pour des affections cardiaques, mais surtout en vue de favoriser leur prise en charge sur place au Bénin, un pôle dédié au développement de compétences en chirurgie cardiaque a été institué au Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou. Grâce à cette initiative du gouvernement, un groupe d'experts internationaux effectue des missions périodiques pour des interventions, facilitant ainsi le transfert de compétences à une équipe de 30 médecins, praticiens et paramédicaux. Ceux-ci sont notamment des médecins spécialistes en chirurgie cardiaque, en cardiologie et en anesthésie-réanimation, ainsi que des paramédicaux spécialistes en circulation extracorporelle, en anesthésie, en réanimation et en infirmerie du bloc opératoire spécifique à la chirurgie cardiaque. La mise en service du Centre hospitalier international de Calavi étant imminente, il est impérieux que le pôle de chirurgie cardiovasculaire thoracique dispose de ressources humaines qualifiées et en nombre suffisant. À cet effet, le renforcement des capacités des 30 praticiens et paramédicaux à travers une immersion dans des hôpitaux étrangers s'est révélé pertinent. Aussi, le Conseil s'est-il prononcé en faveur de leur mise en stage dans des hôpitaux publics et privés européens.
Ce 1er décembre est dédié à la lutte contre le VIH-Sida, lancée en 1988. La journée mondiale de lutte contre le Sida a été la première journée internationale dédiée à la santé au niveau mondial. Le slogan de cette édition 2023 est de confier le leadership aux communautés. Ce slogan vient s'ajouter à une liste toujours plus longue de défis mis en avant par cette manifestation dans le monde entier. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la riposte mondiale au VIH est en péril, alors même que le VIH reste un problème majeur de santé publique qui touche des millions de personnes dans le monde. C'est conscient de cela que Radio Afrique Santé vous propose cette production qui met l'accent sur les moyens de prévention du VIH.
L'ONU SIDA travaille avec les organisations clés pour l'éradication du VIH-SIDA. Mais pour l'heure, l'issue escomptée n'est pas atteinte. Le VIH est toujours d'actualité, nous explique le médecin généraliste, Dr Moussa Ayedou.
Le VIH, jusqu'à ce jour, continue d'être un problème majeur de santé publique. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens meurent silencieusement du VIH que les gens osent dire que le VIH n'est plus d'actualité.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique en général a fait des progrès significatifs contre le VIH au cours de la dernière décennie, réduisant les nouvelles infections de 43% et réduisant de près de moitié les décès liés au sida. Mais les décès pouvaient être davantage réduits si certains cas de VIH étaient détectés plus tôt. Au Bénin, par exemple, le dépistage spontané et régulier du VIH n'est pas encore entré dans les habitudes. Témoignage.
Je n'ai jamais fait un test de dépistage du VIH-Sida. Bon, peut-être à l'avenir, je vais le faire.
Je devrais postuler pour un concours et on avait exigé ça. J'avais été faire le test. Je crois que cela remonte à 2 ou 3 ans.
La dernière fois que j'ai fait mon dépistage, c'était l'année dernière.
C'est souvent par crainte que plusieurs préfèrent ignorer le statut sérologique que d'apprendre qu'ils ont le sida. Dr Moussa Ayedou désapprouve cette mentalité.
Lorsque vous ignorez votre statut sérologique, c'est grave. Quelqu'un qui fait le choix d'ignorer son statut sérologique est un danger pour lui-même et constitue un danger pour la société. Parce que plus tôt vous vous faites dépister, plus tôt vous savez que vous n'êtes pas malade, ou plus tôt vous savez que vous êtes malade et vous prenez les dispositions pour que la maladie ne vous s'affaiblisse pas complètement.
Piercing et tatouage sont devenus aujourd'hui des parures pour les jeunes. C'est la mode, disent-ils. Mais le risque de transmission du VIH est grand si des instruments contaminés ne sont pas stérilisés ou sont partagés entre plusieurs personnes. Dr Moussa Ayedou, médecin-chef de la clinique Sainte-Célestine de Parakou, renchérit.
Il faut déjà éviter de faire des rapports sexuels non protégés avec des partenaires occasionnels. Je suis agent de santé. Je veux faire un prélèvement à un sujet porteur du VIH, que je le sache ou pas. Mais malencontreusement, je me pique avec l'aiguille avec laquelle je viens de prélever cette personne. Je peux avoir la maladie. Je prends la lame de quelqu'un qui a le virus du VIH. La personne vient de se blesser avec cette lame en se taillant les ongles. Moi-même, je pense à je me taille les ongles, je me blesse avec. Je peux avoir le VIH. Ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est que chacun ait sa tondeuse pour se coiffer. C'est la meilleure option. Pour faire de piercing, d'accord, on ne va pas vous dire de ne pas faire de piercing, mais ayez votre matériel à vous pour faire votre piercing, ayez votre matériel à vous pour faire votre tatouage, et tout le monde sera à l'abri des dangers. Parce que si quelqu'un vous fait de piercing et qu'il n'a pas pris le soin ou bien le temps de bien nettoyer, bien stériliser le matériel qui a servi à faire ce piercing à quelqu'un et qui... par malheur, par malchance, ce dernier était porteur du virus du VIH. Vous allez contacter malheureusement le virus.
L'infection au VIH ne s'accompagne habituellement pas de symptômes chez une personne nouvellement contaminée. Le seul moyen pour une personne de savoir si elle est contaminée ou non reste et demeure le dépistage du VIH.
Restons toujours au plan national pour parler environnement et agroécologie. Le mercredi 29 novembre dernier, l'Agence territoriale de développement agricole Ouémé Atlantique et Littoral Mono ATDA pour 7 situés dans la commune d'Abomey-Calavi a débuté la semaine nationale de l'agroécologie, un crise de promotion des pratiques agricoles durables. Promouvoir les pratiques agricoles durables, de richesse scientifique et œuvrer pour une agriculture saine et durable sont les objectifs de cette semaine d'agroécologie qui, dans sa toute première édition, Pierre Bédier, président du cadre de concertation nationale des acteurs de l'agroécologie du Bénin.
C'est pour pouvoir montrer que produire sans détruire l'environnement, produit sans utiliser des intrants chimiques de synthèse, c'est possible. C'est aussi pour montrer qu'il est possible que nous ayons des aliments sains. Mais si vous regardez aujourd'hui ce que nous consommons, c'est ça qui nous rend malades. Donc l'agroécologie s'impose à nous pour que nous puissions avoir des produits de qualité, sans la chimie, mais naturels. Et ça, ça donne la bonne santé. Vous allez voir que tout ce que nous avons mis comme activité pendant les 4 jours-là, c'est pour que nous restons ensemble.
À cette fois de l'agroécologie, on retrouve des produits locaux riches, diversifiés. Tous les produits sont de bonne facture, s'en réjouit Pierre Bédier, président du cadre de concertation nationale des acteurs de l'agroécologie du Bénin.
Si vous regardez les produits qui sont là, moi je ne peux pas faire une sélection. Parce que tous les produits que j'ai vus ce matin sont de bons produits pour notre santé. Vous allez voir tout ce qui rentre à la production végétale. Vous voyez les tubercules, vous voyez les céréales, vous voyez les légumes. Tout ça, c'est utile pour la santé, pour l'alimentation. Si vous rentrez dans la catégorie des produits animaux, vous voyez la volaille locale qui est là. Vous voyez l'élevage de cabri. Vous voyez donc l'élevage respectueux de l'environnement qui est là. Si vous rentrez dans la catégorie de transformation des produits, vous allez voir, il y a 10 000 produits de transformation qui sont exposés là. Vous avez vu le gari à partir du manioc. Vous avez vu le tapioca. Vous avez vu des choses exceptionnelles. Le souchet qu'on a transformé. Vous avez vu des boissons qui sont faites à partir des produits de chez nous, des feuilles. C'est ça qui est valorisé aujourd'hui.
Dans le rang des forains rencontrés sur les lieux, on note une satisfaction.
Moi, ça me fait un grand plaisir qu'on puisse se retrouver ensemble et qu'on puisse échanger, voir ce qui se fait également pour pouvoir avancer et épandre cette agroécologie à travers tout le Bénin.
Je suis très contente que cette semaine soit initiée. Je souhaite que ça continue et tout le monde comprenne que quand nous mangeons sain, nous allons vivre longtemps.
Plusieurs activités sont prévues pour cette semaine. Il s'agit entre autres de l'exposition foire de produits et intrants agricoles, des communications thématiques sur l'agroécologie, la préparation et la dégustation en live des mets locaux en voie de disparition, les visites pédagogiques, des sites pédagogiques et les animations culturelles. Que savez-vous du citron? Quelles sont ses vertus sur la santé? Le citron est un anti-inflammatoire naturel. Il favorise la digestion et régule la tension artérielle. Il est l'un des fruits contenant le plus de vitamine C. Il renforce le système immunitaire et aide à combattre les infections. Eric Dozoubeté, nutritionniste diététiste, nous en dit plus sur les bienfaits du citron.
Nous devons savoir que le citron est riche en vitamine C. Premièrement, la vitamine C est un antioxydant qui lutte contre les éléments agresseurs qu'on appelle les radicaux libres, qui attaquent souvent le système immunitaire et les cellules. Donc, la vitamine C joue un rôle pour pouvoir éliminer ces éléments agresseurs-là. La vitamine C aussi facilite l'absorption au niveau de l'organisme. Alors, si la vitamine C rentre en contribution pour faciliter l'absorption du fer, c'est pourquoi parfois, chez les femmes enceintes, lorsqu'ils prennent leurs médicaments de fer, on leur demande de l'accompagner du citron ou de l'orange pour faciliter l'absorption du fer au niveau de l'organisme. Cela prévient aussi l'anémie, parce que lorsque il y a une bonne absorption du fer, on prévient aussi l'anémie qu'on appelle l'anémie ferriprive.
Peut-on prendre le citron tous les jours et quelles sont les vertus thérapeutiques du citron? Élément de réponse toujours avec Eric Dosoubété, il est nutritionniste diététiste.
On ne doit pas consommer le citron tous les jours. Il faut varier l'alimentation. Donc, le citron n'est pas le seul fruit qui existe. Il y a d'autres fruits aussi qu'il faut consommer et bénéficier des bienfaits qui se trouvent au niveau de ces fruits-là. Maintenant, quelle maladie le citron peut soigner? Je ne vais pas droit spécifiquement une maladie, mais nous voyons que le citron, dans son rôle d'antioxydant, facilite la protection du système immunitaire. Et qui dit un système immunitaire résistant, dit aussi prévention des maladies.
Au Bénin, la programmation de la 7e édition du festival Djobé Mitonaye 2024 a été dévoilée mardi 28 novembre dernier à Cotonou. C'est à travers une conférence de presse convoquée par le palais de la reine-mère Naye, Kondodo Toligla et l'association Naziafat. Cette 7e édition de ce festival a pour thème « Femmes ». Pour un développement sociétal paisible et équilibré. Elle va se tenir à Alada du 8 au 14 janvier 2024. La conférence de presse s'est tenue en présence de Rachel Bassassi, compte rendu.
Le festival Djobé Mitonaye va contribuer à l'épanouissement de la gente féminine à travers les micro-projets et formations. Il va aussi favoriser le contact entre la jeune génération et les personnes averties. Naye Bojito Animanso Kondodo Toligla, promotrice du festival Djobé Mitonaye et présidente de l'association Naziafa.
Le festival Djobé Mitonaye est un creuset qui permet à la jeunesse d'avoir un contact avec les personnes de troisième âge, les personnes expérimentées. C'est un creuset qui permet à la jeunesse de poser toutes les questions de curiosité, d'être à l'écoute des générations passées et de pouvoir profiter des expériences de ces personnes âgées pour pouvoir construire leur vie. La revalorisation de la puissance matricielle et le féminin sacré afin de promouvoir les droits et rôles de la femme. Le festival Djobé Mitonaye permet également aux couples de se retrouver, de se raligner sur les vraies valeurs de la famille.
Plusieurs activités vont meubler cette édition du festival Djobé Mitonaye. Il s'agit entre autres de l'art culinaire, des danses traditionnelles et des visites touristiques. Marius Avokanzounon, assistant de la chargée des projets du festival.
Nous aurons les danses patrimoniales, toba, tcheke, des danses purement de chez nous. Après, nous aurons l'art culinaire. Nous aurons également l'art oratoire. Le mardi, nous aurons la visite touristique du palais Bagidi à Huawei. C'est surtout pour visiter un peu les figures emblématiques des femmes leaders qui ont eu à impacter positivement l'histoire. Après, le mercredi 10, on aura également danse patrimoniale. Après, nous aurons l'atelier sur l'art culinaire. L'atelier sur l'art culinaire cette année pour la 7e édition est placé beaucoup plus sur le maïs. On va spécifiquement parler du maïs. Quelles sont les valeurs culinaires et les valeurs peut-être endogènes du maïs. Donc après ça, on aura l'art ludique.
Au nombre de ces activités, il est également prévu un atelier de sensibilisation des filles adolescentes pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirée.
Quelles sont les actualités à l'international qui ont fait la une de nos auditions de journal cette semaine? Rendons-nous déjà en France où le prix du paquet de cigarettes connaîtra une hausse d'ici 2025. Il va passer de 11 euros à 12 euros, c'est-à-dire de 7200 à 7853 francs CFA. C'est le ministre français de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, qui l'a annoncé mardi 28 novembre 2023 au cours de la présentation d'un plan national de lutte anti-tabac. Le plan concerne 5 grands axes : protéger les jeunes du tabagisme, accompagner les fumeurs, surtout les vulnérables, vers un arrêt du tabac et puis l'instauration création de nouveaux espaces sans tabac. Selon les chiffres évoqués par le ministre, chaque année, la France paye un lourd tribut au tabagisme qui reste la première cause de mortalité évitable. Environ 200 Français meurent chaque jour des suites de maladies liées au tabagisme. Toujours ce même mardi 28 novembre 2023, le Japon a débuté à titre expérimental la mise en vente libre de pilules contraceptives du lendemain, habituellement soumises à une prescription médicale dans le pays, une avancée que les défenseurs des droits humains estiment cependant trop limitée. Dans le cadre de ce projet pilote, la pilule contraceptive d'urgence qui peut prévenir une grossesse dans les 72 heures suivant un rapport sexuel, mais dont l'efficacité diminue avec le temps, est disponible dans 145 pharmacies à travers le pays, selon l'association pharmaceutique japonaise. Les femmes âgées de 16 ans et plus qui souhaitent obtenir les médicaments dans le cadre de cette phase de test peuvent acheter les pilules après avoir appelé la pharmacie à l'avance. Toute femme de moins de 18 ans doit toutefois avoir une autorisation parentale et être accompagnée d'un parent lors de l'achat, ce qui implique de parler de sexualité à ses enfants. Cet état de choses est déploré par les associations de défense des droits humains. Elles demandent la levée pure et simple des restrictions entourant l'achat de la pilule du lendemain au Japon. Notez que la vente de la contraception d'urgence au Japon avait déjà donné lieu à des discussions en 2017, lesquelles n'avaient pas abouti au feu vert des autorités de santé, cette dernière estimant qu'une telle mesure rendrait la population moins susceptible de prendre des précautions lors des relations sexuelles. Selon les militants, cela peut décourager de nombreuses femmes, notamment les victimes de viols ou les adolescentes, de tenter de se procurer la pilule du lendemain, et compris pour des raisons pratiques, de nombreux cabinets étant fermés le soir et le week-end. L'Organisation mondiale de la santé estime sur son site internet que la contraception d'urgence devrait être systématiquement incluse dans tous les programmes nationaux de planification familiale. Santé en 7 de ce dimanche 3 décembre 2023. Stop et fin. Merci de nous avoir suivis. Présentation Fortuné Doting, réalisation Turbis. Arrêtez-nous. L'information continue sur Radio Afrique Santé.